comme un jeudi sur deux, retrouvez à partir de 13h20 le rendez-vous de la médiatrice. Aujourd'hui, virus, mutation, une chronique qui fait réagir, celle de Nicolas Martin. Mais d'abord, une anthropologue, prix Joseph Kessel, un prix qui souligne la singularité de sa démarche et sa sincérité. Nastasia Martin, de l'Alaska au Kamtchatka, après un essai-enquête, Les âmes sauvages, à la découverte, deux documentaires, dont Un été au pays Even, diffusé cette année sur Arte, elle publie l'an passé un premier récit, Croire aux fauves, paru aux éditions Verticales. Attaquée par un ours marqué dans sa chair, elle y fait le récit d'une rencontre initiatique. Elle écrit « Ce jour-là, le 25 août 2015, l'événement n'est pas « Un ours attaque une anthropologue française quelque part dans les montagnes du Kamtchatka ». L'événement est « Un ours et une femme se rencontrent et les frontières entre les mondes implosent ». Dans ce récit, le jury présidé par Olivier Weber a dit vouloir récompenser une expérience de l'altérité, un livre puissant qui interroge le sauvage et l'interpénétration de l'humain et du non-humain. Bonjour Nastasia Martin.
Bonjour.
Des Alpes ou des montagnes, des Hautes-Alpes où vous vivez aujourd'hui, vous êtes avec nous pour évoquer à la fois cette récompense, celle d'un parcours qui est quand même très particulier, d'un regard que vous posez sur le monde, et puis aussi une préface que vous signez, c'est-à-dire l'œuvre d'une autre, en pleine rédaction d'un second livre d'ethnologie sur les populations évennes. Vous signez ce mois-ci en effet la préface d'un livre passionnant, Friction, délire et faux-semblant de la globalité, paru en 2005. C'est seulement aujourd'hui que ce livre sort en France, à la découverte, traduit par Isabelle Stengers et Philippe Pignard, un livre de l'anthropologue Anna Tsing, professeure américaine, auteure précédemment d'un livre qui a marqué aussi Le champignon de la fin du monde. Est-ce que vous vous rappelez de votre première lecture de ce livre, de la manière dont il a pu vous influencer, Nastasia Martin ?
Oui, oui, absolument. Je m'en rappelle parce que je m'en suis servie pour l'écriture de ma thèse de doctorat, Les âmes sauvages. Et je trouve intéressant de rappeler donc que ce livre a été publié aux États-Unis en 2005, exactement au même moment que Philippe Descola publie Par-delà nature et culture.
Son livre phare, ouais.
Voilà.
Philippe Descola qui était votre maître de thèse aussi, hein, oui, directeur de thèse.
Directeur de thèse, oui. Donc voilà deux livres, deux projets théoriques très très différents, mais qu'on peut mettre en miroir. Je pense parce qu'il nous invite quelque part à dépasser les dualismes qui structurent nos sociétés modernes, et notamment le plus fondamental qui est le dualisme nature-culture, qui est encore très présent du point de vue des institutions. Simplement, Philippe Descola et Anna Tsing empruntent des chemins très très différents pour opérer ce dépassement, et donc des méthodes aussi très différentes. Et Anna Tsing, donc, elle ne s'intéresse pas, comme Philippe Descola, à la stabilisation d'ontologies différentes, c'est-à-dire des manières d'être au monde, mais à ce qui se passe entre ces mondes. En fait, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que la méthode d'Anna Tsing, elle répond en fait à un problème très particulier, qui est en fait le terrain, c'est-à-dire le point de départ de sa recherche, à partir d'où elle déploie sa méthode. Ce terrain, c'est Bornéo, c'est la région du Kalimantan du Sud, et c'est un monde qui est pris par la crise qui a succédé à l'arrivée des grosses entreprises forestières dans la région. Ouais. Et donc, oui, pardon.
Non, je vous en prie, finissez.
Voilà, donc là où elle aurait pu arriver sur un terrain et faire une ethnographie, ce qu'on appelle une monographie classique des Dayak Meratus, qui sont la population indigène qui vit dans cette région, elle s'est confrontée à un monde complètement démembré, en crise et en proie à un capitalisme virulent duquel il allait bien falloir dire quelque chose.
Anna Tsing, on l'entend, c'est une pensée, c'est une méthode et c'est un style aussi. Hein. Vous écrivez dans cette préface « La science n'a plus besoin sous la plume d'Anna d'être opaque, ennuyeuse et accessible à un seul petit groupe de happy few. Elle peut être festive et explosive, même et surtout lorsqu'elle s'intéresse à de très sérieuses problématiques comme par exemple celle de se demander ce que nous avons fait du monde qui soutient nos existence. Friction, ce livre phare, paru donc en 2005, traduit aujourd'hui en France, c'est aussi une nouvelle forme de mise en récit, Nastasia Martin.
Oui, absolument. Absolument, même si j'aimerais juste dire quelque chose avant de venir sur la mise en récit, c'est que je pense que Anat Singh serait contente que je le rappelle. C'est que le premier projet de ce livre, je pense, c'est de faire sentir au lecteur la brutalité en fait de la zone frontière, c'est-à-dire de ce front de colonisation, et de le placer de manière sensible au bord de l'abîme qui quelque part s'est ouvert sous ses propres pieds à elle lorsqu'elle est arrivée sur le terrain. Et donc oui, évidemment, il faut réinventer une forme de récit pour traduire ce qui se passe sur cette zone frontière. Et donc restituer, je pense, quelque part, les conditions de production de la recherche.
Oui, et vous le dites, hein, pour faire sentir ça au lecteur, hein, pour faire sentir au lecteur le en quoi ça consiste, cette brutalité. Hein.
Oui, absolument. Absolument. Alors, c'est faire sentir au lecteur, mais c'est pas seulement le lecteur, c'est aussi, à travers l'écriture, se donner les moyens de rendre justice au collectif avec lesquels Anat Singh travaille, qu'il s'agisse des collectifs humains à laquelle donc elle se confronte dans cette sur ce front de colonisation, dans cette zone frontière, mais aussi des milieux de vie, c'est-à-dire qu'elle considère que les êtres non humains sont des acteurs à part entière et qu'il faut leur redonner une place au sein de l'écriture anthropologique au même titre que les humains. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important.
J'en reviens juste à cette question de l'écriture, mais on va venir aussi dans la pensée d'Anat Singh, et notamment pour essayer de comprendre en quoi ce livre, Friction, a pu consister ou représenter pour beaucoup une sorte de révolution méthodologique aussi. Elle parle à votre cœur, écrivez-vous. Elle a une forme de poésie qui lui est propre. C'est intéressant parce qu'après un premier essai, Les âmes sauvages, qui a été le fruit de votre travail de thèse avec Philippe Descola, vous vous êtes lancé justement dans l'écriture de Croire aux fauves. Et ça, c'est un récit. Est-ce que vous avez le sentiment que pour ce récit, vous vous êtes placé dans ce sillon aussi d'Anat Singh, que vous vous êtes senti autorisé à un mode de récit un peu plus subjectif, à une écriture plus située?
Absolument. Absolument. Après, c'est beaucoup plus dur à tenir comme posture au sein de l'anthropologie française. Mais oui, je pense qu'Anat Singh invente une méthode. Elle a cette phrase magnifique lorsqu'elle dit mon but est tout autant pratique que poétique. Et ça, je trouve que c'est une posture intellectuelle d'un très grand courage. Et en fait, ce qu'elle essaie de faire, c'est de cesser les opérations d'extraction la constitution des données ethnographiques. Et ça, qu'est-ce que ça implique de cesser les opérations d'extraction? C'est de trouver, d'inventer des nouvelles formes de récits. Et donc, pour inventer des nouvelles formes de récits, on se pose la question du contenu, évidemment, mais aussi la question de la forme, qui devient très, très importante.
D'où cette récompense aussi pour vous aujourd'hui avec ce prix Joseph Kessel. Vous avez un peu l'impression de marcher ou d'avoir un souffle, une voix qui retrouve celle de ce grand journaliste, écrivain. Joseph Kessel, c'est une figure qui vous a, vous, parlé dans votre mémoire de lectrice.
Oui, bien sûr, dès un très jeune âge, parce que ma mère m'avait mis entre les mains Le Lion, qui m'avait évidemment beaucoup marqué. J'irai pas à me comparer à lui, mais en tout cas oui, c'est une très très belle récompense et j'en suis très touchée.
D'autant plus, alors je suis pas certaine de ce que je vais dire, c'est pas scientifiquement établi, mais je crois que vous êtes une des premières anthropologues à obtenir ce prix qui revient traditionnellement plutôt à des écrivains voyageurs. Autre point important de ce livre que vous préfacez, ce livre de l'anthropologue professeure américaine Anat Singh, intitulé Friction et qui paraît aujourd'hui à la découverte, vous écrivez dans votre préface « Le relire est une expérience vertigineuse, rendant intelligibles les possibilités d'existence d'un tel coup de fil, résumant simultanément l'époque et sa déroute, le monde renversé et l'inattendu qui fait irruption dans nos vies. » Ce livre, Friction, on le disait, il a 15 ans. il n'a pas cessé hein, depuis de circuler, d'influencer aussi une génération de chercheurs dans le monde. Mais à vous lire, il y a quand même une force du propos qui est assez frappante aujourd'hui, à l'heure du coronavirus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il est peut-être plus que jamais d'actualité ?
Oui, oui. C'est d'ailleurs, j'ai vraiment été frappée en relisant la traduction, parce que donc je l'avais lu il y a plus de 10 ans dans le cadre de ma thèse, et c'est vrai que je m'étais pas nécessairement intéressée aux mêmes aspects. Mais c'est vrai que le relire au temps du coronavirus, c'était absolument fou, parce que en fait, elle montre à travers toutes ces analyses comment ce capitalisme virulent qui malmène finalement les périphéries de la modernité est en train de déborder ses avant-postes. Et je pense que pour moi, comme pour beaucoup, c'est l'expérience du confinement et du virus, ça a été un petit peu cette inattendue qui d'un seul coup a fait irruption dans nos vies. Et pour une anthropologue, évidemment, ben la certitude à présent que l'instabilité que moi j'ai observée dans le Grand Nord, que elle a observée sur ses terrains, était à présent partagée. Et qu'elle confinait aussi à l'éclatement quelque part de nos ethnographies situées. Et la beauté de ce qui se passe quelque part, la formidable opportunité du virus, c'est que nous perdons absolument notre statut surplombant de traducteur de monde. Nous sommes tous affectés par ce dehors au même titre que ce « eux ». Anna Tsing parle souvent de cette dichotomie fictive entre le « eux » et le « nous ».
Et ce serait qui ce « eux » ?
Alors là, en l'occurrence, pour des anthropologues, le « eux », ce sont les sociétés sur lesquelles on travaille et qui, de fait, se trouvent aux avant-postes de l'extractivisme et ou du changement climatique. Mais là, à l'occasion du virus, on se trouvait d'un seul coup sur un plan horizontal et symétrique qui était plus simplement théorique, comme ce que Bruno Latour appelait de ses voeux, une symétrisation des collectifs, mais de fait pratique. Parce que, comme dans le Grand Nord, comme sur les terrains d'Anna Tsing, des êtres invasifs ont fait dévier nos trajectoires. Et il a fallu, ou il faut, plus exactement, y faire face en trouvant des possibilités de dialoguer avec ces puissances non humaines.
C'est intéressant, vous dites, cette épidémie, vous, Nastassia Martin, vous ne l'aviez pas vu venir, vous ne l'aviez pas anticipé, vous justement qui êtes ou étiez aux avant-postes, comme vous le dites.
Oui, non, absolument pas, absolument pas. Et puis j'avais encore des velléités de partir sur le terrain, donc au Kamchatka quelques mois plus tard. Non, je m'y attendais pas. Et je pense qu'il y avait, oui, malgré le fait que je travaille avec des collectifs qui sont aux avant-postes et qui sont débordés de toutes parts par ces problématiques, je pense que j'avais malgré tout des formes de hier. Quant à l'idée que ça pouvait se passer dans mon monde, et mine de rien, il y a toujours ce biais qu'on a de vouloir garder les pieds hors de l'eau, avec cette position un petit peu en retrait, réflexive, etc. Et là, d'un seul coup, ça nous arrivait à nous. C'est un peu ce que je raconte dans ce petit passage, où je retranscris une conversation téléphonique au début du confinement, où en fait c'était comme si les mondes s'étaient renversés et où c'était eux, alors qu'ils vivent de fait dans des conditions extrêmement précaires, qui s'inquiétaient pour nous ici.
Le halo salut, hein, ce passage que oui, vous mettez en préface devant l'abîme. Avec nous jusqu'à 13h30, Nastassia Martin, anthropologue qui signe notamment en cette rentrée la préface d'un livre passionnant, Friction, signé donc de l'anthropologue américaine Anna Tsing. Anna Tsing, comment la décrire ? Une pensée généreuse, une philosophie de l'humilité ? On l'écoute.
Je crois que notre point de départ devrait être une grande humilité et être humble par rapport aux lieux dans lesquels on vit, plutôt que d'imaginer qu'on va pouvoir tout réparer, tout restaurer. Eh bien, si on continue de vivre dans ces fragments holocéniques qui nous restent et que nous nous efforçons d'aimer ces mondes, de les chérir, de reconnaître leurs valeurs et de les accommoder, de nous accommoder à eux, au lieu d'imaginer une croissance qui finira par nous dévorer. Je crois que c'est la voie à suivre.
Aimer ces mondes, Nastassia Martin, de quel monde parle-t-elle ?
Oui, ben elle parle de ces mondes ruinés dans lesquels elle a débarqué dans le Kalimantan du Sud, et je trouve ça encore une fois d'une grande honnêteté intellectuelle, cette manière de prononcer le mot aimer pour une anthropologue.
C'est pas habituel.
Non, pas vraiment. Oui, parce qu'on est censé traduire un point de vue le plus objectif possible sur le monde qu'on étudie, pour le traduire de la manière la plus juste. Mais ce que dit Anna Tsing, et d'ailleurs elle le dit dans Frictions, c'est que pour que cette traduction soit la plus juste possible, il faut une intimité avec les personnes avec lesquelles on travaille, et nos informateurs sur le terrain deviennent la plupart du temps de grands amis. Et ce qu'elle fait, je trouve ça très beau, c'est qu'elle rend visible la fiction qui existe entre ce eux et ce nous, et elle le laisse se désintégrer peu à peu au fil des pages, et elle fait ressortir cette intimité qu'elle partage. Donc elle ne s'extrait jamais de l'équation, d'ailleurs elle est toujours présente sans que ça devienne de l'autofiction, mais c'est ça, rendre visible les conditions de production d'une recherche, c'est justement tenter des formes, des manières de restitution, d'écrire qui puissent rendre sa juste place à chacun des protagonistes d'une histoire qu'on partage finalement. Et elle parle aussi du cœur. Enfin voilà, ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Mais elle dit que même lorsqu'on parle de problématiques très sérieuses, là en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe sur le front de colonisation, de l'exploitation forestière dans le Kalimantan du Sud. Donc c'est très dur, c'est souvent tragique, etc. Mais même lorsque l'on parle de ça, il ne faut pas fermer les yeux ni les mots du cœur. Parce que si on le fait, on se ferme à l'inattendu, à ce que ces gens pourraient apporter au système théorique qu'on va mettre en place, qui pourrait y rentrer par effraction et qui pourrait contribuer à le métamorphoser. Et ça se passe que si vous gardez les yeux du cœur ouverts. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire?
Et donc, très bien, à contrario, quitter cette posture un peu froide, quitter une certaine distance critique ne veut pas dire pour autant perdre tout sens critique. Est-ce que dans cette position-là, et dans ces mots et cette démarche d'Anna Tsing, vous voyez une réponse à la crise du récit actuel, celle que nous vivons, et peut-être aussi le début d'une leçon à tirer de ce qui nous arrive, de ce débordement du monde que vous évoquiez?
Oui, absolument. Cette question, je vais peut-être revenir pour répondre à la question de la friction, hein, qui est le titre de ce livre. Avec ces nouveaux récits qu'elle met en place, donc elle explose ces ethnographies. Elle les pluralise, elle les symétrise, et le but c'est vraiment faire proliférer la diversité des manières d'être au monde et les reconfigurations qui peuvent s'y opérer lorsqu'elles entrent en collision. Donc en ce sens, la friction c'est vraiment une méthode. Donc en fait ce qu'elle montre, c'est que à travers en fait toutes ces ethnographies qu'elle va symétriser, alors là que ce soit les Dayaks, les activistes, les industriels, les prospecteurs miniers, etc., se créent parfois des alliances accidentelles souvent sur des malentendus, entre des collectifs très différents, mais qui, lorsque ces collectifs ne sont pas détruits, ce qui est le cas la plupart du temps, peuvent devenir des puissances de transformation, finalement quelque part au cœur de la crise, au cœur de la déroute. Et donc oui, c'est absolument une méthode, parce que en fait, à l'endroit même de la ruine et de cet endroit où on pensait qu'il n'y avait plus rien, le front de colonisation, la zone frontière, il n'y a plus rien que le capitalisme virulent qui détruit tout sur son passage. Eh bien non, elle vient retisser des fils avec les collectifs avec lesquels elle travaille, qui sont à même d'entraîner des reconfigurations pratiques du monde, en fait, et d'inventer aussi de nouveaux récits. Et de nouveaux récits qui ne vont pas simplement être des récits micro, locaux, etc. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est vraiment absolument, pour moi, fondamental dans la pensée d'Anna Tsing, mais qui vont devenir peut-être, donc ces histoires qui sont reformulées dans cette reconfiguration des mondes au milieu de la ruine, vont devenir des histoires à la fois locales, régionales, nationales, voire globales. Mmh. Et elle fait tout le temps dialoguer la globalité la plus large avec le local le plus infime. Et ce qu'elle dit, et là encore, c'est un renversement auquel on n'est pas si habitué en anthropologie, parce qu'on sait bien que les terrains qu'on étudie sont traversés par des problématiques globales et qu'ils n'existent jamais, en eux-mêmes. Mais on a plus de mal à se dire que le global, entre guillemets, est transformé par des histoires autres qui émanent, qui sont encore différentes et qui peuvent venir infléchir finalement des systèmes qu'on croyait inébranlables. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui donne beaucoup d'espoir. Et en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me donne envie de continuer à faire de la recherche avec des populations qui vivent encore sous d'autres normes que les nôtres.
Voilà, un peu à la manière d'Anna Tsing, c'est-à-dire arpenter des lieux, faire des recherches qui permettent de raconter ces mondes, de penser là où s'entre-répondent la ruine et le possible, comme vous le dites à l'instant. Ethnographie de la connexion globale, voilà comment vous qualifiez ce livre, Friction, qui réfléchit aux liens créateurs entre les êtres, aux frictions contre l'impérialisme. Friction d'Anna Tsing, vos travaux sont aussi une façon de raconter la place des humains et des non-humains dans notre monde à nous. Je vous propose d'écouter une autre voix importante pour vous, vous l'avez rappelé, importante aussi de l'anthropologie tout court, celle de Philippe Descola.
L'une des missions de l'anthropologie, c'est d'essayer de traduire des systèmes d'idées et de pratiques d'une langue ou d'un domaine de pratique dans un autre. Et c'est une opération extrêmement difficile parce que le traducteur tend très souvent à essayer d'imposer les catégories au moyen desquelles il va décrire ces autres systèmes. Et donc il y a différentes façons d'essayer de surpasser cette difficulté. Celle que j'ai choisie, alors c'est quelque chose d'un peu technique, c'est le groupe de transformation. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe de transformation? C'est on prend des éléments du monde et on essaye de voir comment ils se transforment les uns dans les autres. Et en fonction du choix que l'on fait, aucun élément n'est privilégié. Et c'est pour ça que j'ai essayé de proposer une méthode pour comprendre la façon dont les humains percevez les continuités, les discontinuités entre eux-mêmes et les objets du monde, qui ne soient pas basées sur notre propre façon d'opérer, que j'ai appelé le naturalisme. Notre propre façon d'opérer, elle est simple, ça veut dire, d'un côté, il y a des non-humains qui n'ont pas les mêmes facultés cognitives, qui n'ont pas le sens moral, qui n'ont pas la conscience de soi, etc., et qui donc diffèrent de nous pour des raisons d'intériorité, ils n'ont pas ces capacités réflexives et subjectives que nous avons. En revanche, ils sont semblables à nous parce qu'ils sont régis par les mêmes lois de la physique et de la chimie.
Voilà, pour vous raconter, Nastassia Martin, on souhaitait faire entendre ces deux voix de l'anthropologie, deux voix qui ont été importantes, essentielles pour vous, celle à la fois d'Anna Tsing et celle de Philippe Descola. Quel sera votre chemin à vous, désormais, celui que vous allez continuer à creuser, parcourir? Quels seront vos prochains travaux? Où est-ce qu'ils vous mèneront?
Oui, c'est vraiment très intéressant d'entendre ces deux voix en miroir. Vraiment, quand je réfléchissais à l'émission, je me disais justement qu'ils étaient quelque part en face, en fait. Ils ont des méthodes qui sont inversées, presque aussi inversées que le naturalisme et l'animisme de Descola sont inversées. En tout cas,
alors vous allez vous situer où, au milieu du guet? Vous allez inventer une troisième voie?
Je pense que je me situe quelque part, entre les deux. Ce qui a été très important pour moi dans l'approche descolienne, c'est la possibilité, à travers ce qu'il a fait avec les quatre ontologies, de créer des outils heuristiques, théoriques, pour saisir des réalités complexes. Des réalités qui sont tellement complexes qu'en fait on a du mal à les aborder dans leur ensemble et à leur rendre toute leur intelligibilité. Et face à ça, Anna Tsing fait un choix tout à fait différent, qui est justement celui de renoncer à un grand ensemble théorique, et qui est d'essayer de se placer vraiment du point de vue du point de vue à l'intérieur de cette complexité, à l'intérieur de mondes qui se défont. Alors qu'évidemment, dans le cadre d'Escola, comme on est en train d'essayer de créer des outils heuristiques, on réfléchit à la stabilisation des mondes.
Merci voilà. Nastassia Martin d'être venue nous parler de ces deux voix, VOIX, VOIES, qui vous sont chères, et de celles que vous êtes en train, vous aussi, de tracer comme anthropologue, comme écrivain aussi. Prix Joseph Kessel, je le rappelle, à l'occasion de ce premier récit, Croire aux fauves, paru aux éditions Verticales. Merci beaucoup à vous. Tout de suite, que se passe-t-il sur votre antenne? Vos questions, ses réponses, c'est le rendez-vous de la médiatrice. Emmanuel Davier, bonjour. Vous recevez aujourd'hui Nicolas Martin, producteur de la méthode scientifique.
Nicolas Martin, bonjour.
Bonjour.
Nous évoquons aujourd'hui la chronique que vous avez faite vendredi dernier, intitulée « Le virus a-t-il muté ?». Ce billet a fait réagir un certain nombre de vos auditeurs. Ils ont estimé qu'il s'agissait d'une chronique à charge injustifiée contre le docteur Raoult. Alors avant d'en venir précisément à ce reproche, pouvez-vous tout d'abord nous indiquer quel est l'objectif journalistique de votre nouvelle chronique « Radiographie du coronavirus » dans la matinale de chaque vendredi ?
Alors oui, c'est une prolongation de la chronique quotidienne que je faisais pendant le confinement au printemps avec une partie de l'équipe, hein, parce que je rappelle toujours que je suis pas tout seul à la manœuvre, qu'heureusement il y a des gens qui travaillent avec moi et qui me permettent de produire cette chronique et de faire de la recherche en amont derrière. L'objectif, c'était simplement de revenir à la science, en fait. Le problème, depuis bien le début de cette épidémie, on s'est rendu compte que on entendait beaucoup de choses, on lisait beaucoup de choses, on écoutait beaucoup de choses, que ce soit dans les médias ou sur Internet, qui n'étaient pas sourcées scientifiquement, que certaines personnes profitaient d'ailleurs du fait que, eh bien, il y ait parfois un léger manque de culture scientifique, disons, chez certains confrères ou chez certaines consoeurs, chez certains journalistes en tout cas, eh bien, pour profiter de cette inculture, pour dire des choses qui n'étaient pas tout à fait correctes scientifiquement. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire avec l'équipe de la méthode scientifique, c'est revenir à la science, donc retrouver les études, lire les études, essayer de les comprendre, de les expliquer, donc de faire un travail de pédagogie, mais aussi de dire quand parfois, eh bien, il y avait quelques manquements, quelques imprécisions, quelques approximations, ou bien parfois carrément quelques mensonges.
Alors, venons-en maintenant à la chronique de vendredi dernier. Des auditeurs se sont dit troublés par la virulence de vos critiques sur les hypothèses de Didier Raoult et le fait, je cite, que vous terminiez votre rubrique sur une insinuation avec l'évocation des mariages juifs, des Roms, des voyages des Maghrébins, comme si le professeur marseillais avait une arrière-pensée raciste. journaliste. Fin de citation. Nicolas Martin, quelle était votre intention? S'agissait-il d'une tribune contre le professeur Raoult?
Alors, à aucun moment il ne s'agit d'une tribune. Moi, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Moi, mon travail, c'est le travail d'un journaliste. C'est-à-dire que je prends les faits, je prends les déclarations. C'était pas une insinuation, hein. Ce que je citais à la fin de la chronique, ce sont des déclarations. D'ailleurs, j'ai répondu dans une lettre sur le site de la médiatrice où je donne le lien vers cette interview où Didier Raoult tient ses propos. C'était une façon de dire que ces propos ne sont pas des propos scientifiques, hein, ce sont des propos qui relèvent pour le coup de l'idéologie. Il n'y a pas d'études derrière qui indiquent la réalité de ces liens avec ces communautés religieuses. Et en fait, c'est notre travail. Si vous voulez, c'est pas du tout une tribune contre Didier Raoult. Mon travail en tant que journaliste, d'ailleurs, ce ne sont pas mes opinions. Ce dont je témoigne dans cette radiographie, ce dont nous témoignons, c'est de la réalité scientifique. On interroge d'autres chercheurs, des virologues, des infectiologues, des épidémiologistes. On lit la littérature scientifique. Et on pointe à un endroit, eh bien, le fait que il puisse y avoir des approximations, des erreurs, voire de la manipulation dans le discours de Didier Raoult. C'est en fait notre métier de journaliste. Les virologues, les infectiologues que l'on consulte, eux, bien, ils sont tenus par évidemment un devoir de réserve pour la plupart. Même si je rappelle que il y a une plainte de l'ordre des médecins pour méconduite scientifique envers Didier Raoult. Donc notre travail en tant que journaliste envers les auditrices et les auditeurs, bien, c'est de leur donner des clés pour leur permettre de lire, de comprendre pourquoi à tel endroit, eh bien, ce discours n'est pas correct, pourquoi à tel endroit ces approximations peuvent être dangereuses ou en tout cas nocives pour le débat public, et puis de montrer que le discours général de Didier Raoult depuis le début, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ensemble de la communauté scientifique et des journalistes aussi scientifiques qui analysent son discours, eh bien, c'est un discours qui a quitté la sphère scientifique pour passer à la sphère politique ou à la sphère idéologique.
Nicolas Martin, votre formation littéraire est parfois avancée par des auditeurs pour accréditer le fait que votre propos scientifique ne serait pas recevable. Que leur répondez-vous ?
Je leur réponds que je ne crois pas qu'il faille être scientifique pour parler de science ou pour faire de la vulgarisation. Le travail de journalisme, ça n'est pas à proprement parler le même travail qu'un scientifique. Par ailleurs, c'est nier le fait que, d'une part, je ne travaille pas seul, je travaille avec une équipe dans laquelle il y a des scientifiques, notamment Alexandra Delbault, qui me permet, avec qui je travaille pour préparer ses chroniques. Elle est diplômée en biologie cellulaire, en ingénierie biologique. Donc, d'une part, ça n'est pas légitime parce que effectivement j'ai une formation littéraire, mais c'était il y a 20 ans. Ça fait 5 ans maintenant que je travaille dans les sciences et que je fais travailler la méthode scientifique, et ça fait 5 ans que je travaille quotidiennement là-dessus. Par ailleurs, j'avais aussi un tropisme scientifique, si tant est qu'il faille que je me défende d'avoir un goût pour les sciences. Et puis surtout, mettons que j'ai une formation scientifique, par exemple, je ne sais pas, en physique des particules, est-ce que du coup je serais légitime pour parler de biologie cellulaire, ou est-ce que je serais légitime pour parler d'informatique et d'intelligence artificielle. Donc en fait, cet argument, c'est une sorte d'argument un peu de mauvaise foi, parce que non seulement il y a du travail, c'est ensuite le travail et l'essence du travail du journalisme scientifique, bien de remonter à la source, d'analyser. Je ne prétends pas être au niveau de gens qui ont fait 35 ou 40 ans de carrière dans un domaine, mais notre travail de groupe et notre travail d'analyse nous permettent en revanche d'être capables de pointer quand il y a des faiblesses dans le travail de tel ou tel chercheur. Ça peut être Didier Raoult aujourd'hui. Je renvoie les auditrices et les auditeurs à des émissions qu'on a pu faire sur la méconduite scientifique, sur la crise de la reproductibilité. Ça ne nous empêche pas d'avoir un travail d'analyse qui me semble pouvoir être pertinent en tout cas.
Merci Nicolas Martin.
Merci beaucoup.
Et merci à vous Emmanuel Davier. Toute cette semaine encore, la Grande Table a été préparée et programmée par Jean Bulot pour les idées, Auriane Delacroix et Henri Leblanc pour la culture, réalisée par Thomas Beau avec Cindy Le Grumelec. Préparée avec soin par Laura Dutèche-Pérez, et elles nous ont aussi beaucoup beaucoup aidé, Anouk Delfino et Madeleine Martineux. Demain, votre Grande Table se fait critique avec Lucille Como, qui vous donne rendez-vous dès midi pour discuter musiques actuelles et cinéma, avec notamment la sortie du film Un pays qui se tient sage de David Dufresne, dont France Culture est partenaire.